Adeline Dieudonné, Victoire de Changy, merci d'être là pour parler de ce livre qui est un récit plutôt collectif, Être mère. Alors tout d'abord, ma première question, qu'est-ce qu'être mère aujourd'hui ?
Vaste question. Je répondrai de façon extrêmement factuelle. Être mère, c'est avoir des enfants. Non, mais c'est très large.
Aujourd'hui comme hier.
Aujourd'hui comme hier.
C'est la même réponse.
Mais donc, c'est aussi être à la fois sacralisé et culpabilisé, parce que c'est un rôle qu'on met sur un piédestal et en même temps à qui on fait tous les reproches du monde, parce que quand l'enfant fait une bêtise, qu'il soit petit ou adulte d'ailleurs, c'est toujours la faute de la mère. On est toujours trop si, pas assez cela.
Et même pour l'enfant, c'est être responsable de tous les maux, de tous les malheurs du monde, et en même temps la plus aimée qui soit.
Ouais. C'est peut-être pas mal comme définition. Être mère, c'est être responsable de tous les malheurs du monde.
Justement, quelle est l'importance d'en faire un texte littéraire aujourd'hui ? Parce que bon, dans la littérature, on n'en parle pas des masses, justement, le fait d'être mère.
Ben justement, c'est ça. Il existe des récits sur la maternité, des récits littéraires, qui ne soient pas des manuels ou des témoignages. C'était la volonté de Julia Carninon, c'était d'en faire un ensemble d'œuvres qui parlaient de maternité. Et voilà, c'est représenter quelque chose de réel en littérature.
La maternité est un bouleversement, ça on le sait en tant que femme. Mais justement, comment il est perçu dans notre société aujourd'hui ?
Comment est perçue la maternité dans notre société aujourd'hui ? Dans mon ressenti, il y a beaucoup d'injonctions liées à la maternité. L'injonction d'être... en soins permanents, enfin, en préoccupation permanente de nos enfants. Enfin, c'est ce qu'on dit tout le temps. Hein. En gros, quand on est au boulot, on va nous reprocher de pas nous occuper de nos enfants. Et quand on s'occupe de nos enfants, on va nous reprocher de pas assez travailler. Voilà, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est perçu comme c'est un rôle extrêmement culpabilisant. Et c'est l'endroit où...
Il est censé être éminemment naturel.
Voilà.
Là où c'est quand même un apprentissage énorme, une tâche infinie, et il y a une injonction à la joie aussi. C'est censé être principalement heureux.
Justement, Adeline Dieudonné, vous, dans ce récit, vous parlez des créatures nues, le fait aussi de prendre conscience qu'on a, une fois qu'on a un enfant, on a peur tout le temps, finalement. On a peur de la maladie, on a peur de l'enlèvement, on a peur des tas de choses, on a même peur du suicide. Avant, ce n'était pas le cas, mais là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a encore plus peur que nos enfants mettent fin à leurs jours. Ce texte est très poignant, en fait. Hein, quand on le lit, on a cette impression de cette souffrance, finalement, de la mère, mais qui ne peut pas la partager avec beaucoup de personnes. C'est aussi la raison... de ce texte pour essayer de comprendre pourquoi les gens ne vous écoutent pas, pourquoi on ne fait pas toujours attention au désarroi d'une mère dans ces moments de peur finalement légitime.
Oui, c'est ça, on est très seul avec nos peurs, alors que comme vous dites, c'est des peurs légitimes. Là, quand je parle du suicide, ben, c'est vrai que c'est la première cause de mortalité chez les 18-25 ans, donc ce n'est pas du tout une peur absurde ou irraisonnée. Et toutes le sont, hein, effectivement. Je parle des risques que mes filles ont d'être agressées sexuellement, d'être violées, d'être victimes d'inceste, d'être maltraitées, voire tuées par un homme qu'elles aimeront. Tout ça sont des peurs absolument factuelles et concrètes. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile d'en parler, pas parce que déjà les gens aiment pas beaucoup qu'on leur parle de choses négatives, et donc souvent c'est des sujets qu'on va reléguer ou qu'on va balayer d'un signe de la main en disant. Mais je crois qu'en fait, si on les balaye, c'est parce que justement on les ressent tous et qu'on a pas très envie d'aller gratter de ce côté-là.
Pourquoi ça reste un sujet tabou en fait ?
La peur ?
Et surtout, être mère, finalement, on ne peut pas en discuter avec beaucoup de gens.
Bah, en fait, ça dépend.
Si on n'est pas joyeuse, comme le disait, si on n'est pas joyeuse, on ne prend pas tout comme un véritable bonheur, on n'a pas cette impression d'être écoutée.
En fait, ça dépend des sujets. Par exemple, si on parle des sujets très physiques, quand on va parler de notre accouchement ou de l'allaitement ou des retours de couches, enfin voilà, de ce genre de choses. C'est un peu comme les règles, c'est des sujets dont on va vraiment pouvoir parler avec les copines, dont on va pouvoir parler avec les femmes qui nous sont proches, mais dont il est très difficile de parler avec les hommes parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Et puis ils vont trouver que c'est sale, que c'est des choses qu'ils n'ont pas forcément besoin de savoir sur notre corps. Voilà, ça, ce sont des sujets qui sont encore difficiles à aborder parce que le corps des femmes est toujours considéré comme, de nouveau, à la fois sacralisé comme la chose la plus belle et la plus merveilleuse au monde et à la fois dévalorisé et sali. Donc tout ça, ben voilà, la maternité, ça touche au corps et ça touche à la mort, et donc c'est vrai que c'est des sujets dont on a encore du mal à parler. Oui.
Justement, vous, Victoire de Changy, c'est plutôt le texte porte sur un questionnement. Quand est-ce qu'on s'habille? Quand est-ce qu'on finalement? Quand est-ce qu'on redevient normal entre guillemets?
Jamais, si c'est la question. Oui, c'est une suite de questions sans réponse, en fait, oui. Qui me sont venues et qui continuent de me venir au quotidien en tant que mère.
Vous aviez déjà fait un recueil
Oui, j'ai fait un recueil de textes quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, qui s'appelle « La paume plus grande que toi ». Et le principe, c'était 9 mois dedans, 9 mois dehors, donc ça raconte ça.
Est-ce que vous pensez toutes les deux qu'aujourd'hui, la maternité, est-ce que les jeunes femmes ont envie de materner quand on a 25-30 ans? Est-ce qu'on a ce désir encore aujourd'hui d'avoir des enfants?
Je crois qu'on questionne plus ce désir aujourd'hui, et à raison. C'est une question qu'on se pose plus franchement, là où encore nous qui sommes jeunes, on ne se la posait pas vraiment.
Oui, et absolument. Et puis il y a des questions, il y a des obstacles à la maternité que je trouve très intéressants. Par exemple, la répartition des tâches parentales. Je crois qu'il y a des femmes, des jeunes femmes qui n'ont pas forcément envie d'avoir d'enfants parce qu'elles savent qu'il va être très compliqué de répartir équitablement les tâches. De la même façon qu'on peut ne pas avoir envie de vivre... avec un homme pour ces raisons-là. Voilà, je parle de nouveau, c'est très hétérocentré hein, comme mon propos, mais il y a la question aussi de l'éco-anxiété, de se dire est-ce que vraiment j'ai envie de mettre un enfant au monde aujourd'hui? Et je trouve que ce sont d'excellentes questions. Et puis il y a aussi ne pas vouloir d'enfant parce qu'on a envie d'occuper son temps à autre chose et que...
Ça prend beaucoup de temps.
On sait l'espace que ça prend dans une vie. Et je trouve tout à fait réjouissant aussi de se dire « Ah ben moi je vais consacrer tout ce temps-là à l'alpinisme. Enfin oui, il y a infiniment d'autres, il y a d'autres sujets intéressants et d'autres
façons de vivre.
Ouais, d'autres façons de vivre et d'occuper son temps que de s'occuper d'enfants. Donc moi je trouve que toutes ces raisons-là sont extrêmement à la fois valables, enfin évidemment, mais c'est réjouissant d'en discuter. C'est réjouissant, je trouve, de voir une jeune génération qui se pose ces questions-là et qui
Et... fait les choses en conscience.
Exactement,
en fait.
Voilà.
Justement, Adeline, vous avez été maman très jeune. Si c'était à refaire, vous le referiez. Pourquoi exactement?
Oui, évidemment, si c'était à refaire, je referais tout pareil parce que mes filles sont là et qu'elles sont absolument merveilleuses et c'est les plus belles et les plus formidables du monde. Donc je ne bougerais pas une virgule à ma vie pour en arriver à aujourd'hui et elles. Maintenant, si on met ça de côté... oui, bah, par exemple, moi, en tant qu'autrice, je vois tout le retard pris. C'est-à-dire que là où d'autres... pendant que moi, je faisais un enfant et que j'apprenais à nouer une écharpe de portage, il y en a d'autres qui faisaient des grandes études de lettres, qui passaient des doctorats, ou simplement qui écrivaient et qui accumulaient de l'expérience d'écriture. Ce que moi, c'est vrai que moi, j'ai passé ma vingtaine à m'occuper d'enfants et donc... voilà, j'ai ce sentiment de retard. C'est encore une injonction, évidemment, oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est moi la façon dont je vois les choses. Et après, d'un autre côté, je suis extrêmement heureuse parce que là, j'ai 41 ans et que mes filles sont grandes et que je vois la liberté que j'ai aujourd'hui, là où j'ai des amis qui sont avec des tout-petits. Donc voilà, il n'y a pas de... Mais moi, je suis assez heureuse d'avoir fait mes enfants jeunes. Donc, oui, non, si c'était à refaire, je referais tout pareil.
Justement, la sexualité et être mère, ce sont évidemment toujours le même problème. On a l'impression que quand on est mère, on n'a plus de sexualité. C'est une question difficile, parfois, à aborder.
C'est pas difficile, mais Julia Carninon en parle dans son texte. Je pense que c'est à peu près la seule à l'évoquer, et très brièvement. Je crois que c'est pas le sujet qui nous occupait, qui nous intéressait dans ce livre. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ce propos-là, Aline ?
Ou non, à part des grandes généralités, qui sont qu'effectivement, la vie de couple pâtit de l'arrivée d'un enfant, parce qu'un enfant, ça dort pas. Quand on a envie que ça dorme, ça prend du temps, ça bouleverse, ça fatigue. Et que donc, évidemment, la question de la sexualité là-dedans, elle est compliquée. Mais de nouveau, il y a... Je remettrai ça sur le dos de la répartition des tâches, et que si les tâches étaient mieux réparties, peut-être que la sexualité s'en porterait mieux.
Oui. Et puis des périodes aussi, je pense, ouais. De la toute petite enfance, et de nouveau une injonction, parce qu'il y a aussi une injonction pour les femmes et pour les couples, en fait, de continuer à avoir une sexualité dense et épanouie. Et en fait, c'est OK de... que ça soit un peu mis sur pause pendant un moment. Je pense que
c'est même chose pour le travail. Oui. C'est la même chose pour le travail. Ouais. Être mère, ça ne peut pas dire qu'on puisse encore travailler. Il y a souvent cette idée que quand on est mère, on doit se consacrer à ses enfants et arrêter de bosser, par exemple.
Oui, enfin, si on le fait, on est montré du doigt parce qu'on le fait. Et si on ne le fait pas, on est montré du doigt parce qu'on ne le fait pas. Donc, de toute façon, il y a c'est des injonctions. Et de nouveau là-dedans, je remets encore le rôle du père, que tout ça serait beaucoup plus facile, évidemment, si la répartition des tâches était égale, équitable.
Cela dit, il y a quand même eu beaucoup de changements ces dernières années, justement avec les pères, mais il y a encore beaucoup de boulot à faire, parce que rien n'est encore bien établi pour... les mères, les futures mères, pour la femme en général. Il y a de l'évolution, mais il reste... beaucoup de choses à faire. Dans vos priorités, enfin, ce que vous avez envie de mettre en avant par rapport à vos histoires, à vos vies, ça serait quoi exactement ? Une remise en question profonde de notre société.
Détruire le capitalisme ?
Oui, ça vous le dites, hein, d'ailleurs, qu'il ne faut pas acheter des trucs, des poussettes à 800 balles. Mais vous avez raison, parce que ça nourrit, alors qu'on n'en a pas forcément besoin.
Non, oui. Et c'est plus complexe que ça encore, détruire tout le système, en fait. Ces histoires de congés parentaux inégaux, c'est là que tout commence, en fait. Impliquer les deux parents dès le tout début de la grossesse, de la même façon, enfin... Oui, en fait, prendre les inégalités à la base.
Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que détruire le cap. En fait, j'aime assez bien quand on dit patriarcapitalisme, parce que c'est deux systèmes qui fonctionnent main dans la main.
Très bien.
Voilà, je pense que détruire l'un contribue fortement à détruire l'autre.
Oui, parce que les jeunes gens aujourd'hui ont peur d'avoir des enfants parce que ça coûte cher, entre guillemets.
Bah oui, je comprends. Je comprends tellement. Parce qu'il y a de telles inégalités, la fracture sociale est tellement importante, la guerre des classes est tellement forte que bah, bien sûr que c'est un argument que je trouve absolument pertinent.
Justement, il y a aussi les problèmes de l'accouchement, parce que les femmes ont encore des souffrances, aujourd'hui encore, des femmes qui sont maltraitées quand elles sont en train d'accoucher. Il y a eu des témoignages, d'ailleurs, assez bouleversants à ce sujet-là. Et aussi la prise en charge après. Donc, quand on revient à la maison, on est souvent seul. On a cette sensation d'être abandonné. On a cette déprime qui arrive. Là aussi, il y a encore beaucoup de choses à faire dans cette évolution d'être mère.
Évidemment. Mais de nouveau, j'illustre le fait que c'est relié au capitalisme, dans le sens où je pense que ces violences-là, elles viennent aussi du fait que, par exemple, on va parler des violences obstétricales, puisque c'est de ça que vous parliez. Je crois qu'une partie des violences obstétricales sont aussi dues au manque de temps et de disponibilité du personnel médical qui n'a pas forcément qui doit aller vite, qui manque de moyens. Alors après, il y a évidemment aussi les vieux médecins qui ont encore leur vieux Oui, c'est ça, et qu'il faut absolument changer, déconstruire. Mais de nouveau, voilà, c'est le patriarcat et le capitalisme, les deux ensemble.
Mais mettre les femmes et leurs bébés dehors après deux jours,
c'est quand même assez violent.
C'est complètement insensé.
De nouveau, le congé du père, c'est vrai que si on était deux...
Oui, qui retourne au boulot 10 jours après, c'est l'enfer, en fait, pour la mère qui se retrouve seule en tête
surtout
à tête.
Surtout si c'est des jumeaux, ou des triplés.
Enfin, du père ou du coparent. Je trouve que c'est tellement pas du luxe d'être à deux au départ pour s'occuper d'un enfant. Il faudrait même être plus qu'à deux. L'idéal serait les coparents et des personnes aussi aidantes qui puissent venir donner un coup de main. Former aussi les parents, parce que c'est pas facile, je trouve, au début. On sait pas comment il faut donner un bain, on sait pas changer un bébé. C'est pas quelque chose qui est inné chez nous. Mais nous, on se débrouille, puisqu'on est toute seule au départ. On apprend à le faire. Et puisqu'on a appris à le faire, en général, les papas se reposent là-dessus. Et je crois que la fracture de la répartition des tâches, elle commence là, clairement.
Oui, déjà.
Quand on vous a proposé de faire ces textes, ça a été oui tout de suite. Vous avez réfléchi à comment amener le sujet qui vous préoccupait le plus?
De mon côté, j'étais la toute dernière greffée au projet et j'avais un mois et demi pour rendre mon texte, donc j'ai pas vraiment eu le temps de tergiverser. Mais j'avais déjà écrit sur la maternité, c'était un sujet que j'avais pas de mal à appréhender, donc oui, ça a été oui tout de suite. Et la façon dont j'en ai parlé s'est déroulée assez naturellement, avec une scène de départ qui comportait une question, et puis ces questions rhétoriques sont devenues... un peu le motif récurrent du texte.
Non, moi ça a été plutôt non au départ. Et alors j'avais prétexté le délai du... Parce que Julia me l'avait proposé en disant c'est pour un texte à remettre dans 2 mois. Et donc j'ai dit j'ai pas le temps, je suis désolée, je suis en pleine écriture. Et puis elle m'a renvoyé un mail en disant finalement c'est dans 6 mois la remise, donc je suis ravie que tu fasses partie du projet. Et donc je rechignais un petit peu à y aller parce que... je me rendais compte que c'était un sujet qui était difficile, que c'était un sujet intime. Contrairement à Victoire, moi, j'avais jamais écrit à la première personne.
Intime,
oui. Et donc, moi, j'ai toujours le champ de force de la fiction entre les lecteurs et moi. Qui me facilite bien la vie. Et là, je savais que, un, j'allais devoir parler à la première personne, deux, j'allais devoir m'attaquer à un sujet qui était difficile pour moi. Et je savais pas du tout où j'allais. Donc non, moi, j'ai vraiment beaucoup rechigné, j'ai mis du temps, j'ai mis plus d'un an à remettre mon texte à Julia.
Puis vous l'expliquez dans le texte, vous étiez aussi en colère au moment de l'écriture.
J'étais triste, en colère et assez ébranlée, effectivement, parce que une copine de classe de ma fille qui s'était suicidée et ça m'avait complètement retourné cette histoire-là, parce que ça venait ajouter une peur à toutes les autres et une peur que j'avais pas encore.
Ça a peut-être justement ouvert cette réalité-là.
Et ça m'a un petit peu épuisée parce que je me suis dit ça fait 15 ans que je me débats avec des peurs. Et là, il y en a une qui vient s'ajouter en plus, qui en plus est extrêmement... d'actualité. J'étais vraiment ébranlée par ça.
C'est un beau témoignage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, on vous sent émue quand vous en parlez, parce que c'est la question que vous vous posez avec votre fille quand elle part, quand elle vous dit au revoir, quand elle part, elle prend son bus. Est-ce que ça sera la dernière fois? Et je pense que... ça fait du bien aux autres mères qui vont vous lire, qui vont prendre ce texte, s'en rendre compte qu'elles ne sont pas toutes seules, que justement ce sont des peurs tellement ancrées en nous, instinctives aussi, et je pense qu'on ressent cette peur-là, on n'ose pas toujours l'avouer, on n'ose même pas y penser parfois, et justement avec un texte comme le vôtre, on s'en rend compte, et ça fait du bien en fait. Donc vous avez eu raison de l'écrire de cette façon-là. Ma dernière question, peut-être, c'est, sûrement, c'est en tant que mère aujourd'hui, comment vous allez, tout simplement?
Je suis fatiguée, personnellement, mais je vais bien, vraiment bien.
Oui, moi aussi, je vais bien. J'ai vraiment une, une belle relation avec mes filles. Et puis surtout, moi, je commence à voir le bout du tunnel parce qu'elles grandissent. J'ai l'impression aujourd'hui de récolter un peu ce que j'ai semé ces 16 dernières années. C'est à la fois agréable et un peu inattendu. Parce que je trouve que quand on est parent, on fait les choses parce qu'il faut les faire et on n'attend absolument rien en retour. Et en fait, à un moment, il y a quand même des choses qui arrivent et c'est, je trouve que c'est le petit cadeau bonus. Ouais.
Moi, je les vois devenir des petites personnes et je trouve ça exaltant.
Oui. Et être mère, c'est pour la vie. Être mère, c'est un métier. C'est peut-être le plus beau, mais le plus difficile également. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à toutes ces questions que les mères se posent avec ces très beaux textes. C'est chez Nili Iconoclaste, Être mère. Merci Adeline Dieudonné et Victoire de Changy.